matin.
8h21 minutes dans Boulevard Against le matin. On a une mise à jour santé à faire. Je dis la femme la plus occupée du Québec, elle me fascine. Élise Berger-Pelletier, qui est urgentologue, mais qui est impliquée dans toutes sortes d'affaires, qui vient nous jaser pour nous rendre service carrément, qui est de retour à Boulevard 102.1 ce matin. Élise, bon matin!
Bon matin à tous, ça va bien?
Bien, ça va tellement bien. J'espère que tu as pris le temps de te reposer. Tu as eu des vacances dans les dernières semaines?
Oui, une petite semaine et il y en aura une autre à la fin du mois d'août avant le retour à l'école des enfants.
Très mérité. Hey, peut-être commencer, Élise. On a beaucoup de dossiers là. Enfin, je me suis emportée. On dirait que je n'étais pas capable de décider vers quoi m'en aller ce matin. Je vais commencer avec un texte qui est sorti concernant tout ce qui est médicaments. On a une pilule pour tout, on dirait aujourd'hui. Il y a des gens qui aiment avoir une pilule pour tout. Il y a des gens qui sont un peu plus réticents. Il y a la Associated Press qui rapportait la semaine passée qu'il y a plus d'un Américain sur 10 qui prend au moins 5 médicaments sur ordonnance, puis plus de 4 sur 10 chez les 65 ans et plus. Est-ce que c'est des chiffres qui se reflètent quand même un peu au Québec?
Ah oui, je pense qu'on aurait le même pourcentage dans notre population québécoise et canadienne. On a effectivement de plus en plus une pilule pour tout, comme tu dis, je pense que c'est bien dit. On a beaucoup de médicaments quand même qui sont en mode prévention secondaire. Ça veut dire quoi, prévention secondaire? C'est que si on veut éviter de faire des infarctus, faire des AVC, faire du diabète, ben on le sait, il faut manger bien, il faut faire de l'exercice, puis ça, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire éviter les maladies par un mode de vie qui est sain. Quand on ne réussit pas ça, ben là, on arrive à la prévention secondaire, c'est-à-dire de prendre des médicaments pour éviter d'avoir des complications. Fait que là, il y a les médicaments pour l'hypertension, les médicaments pour le diabète, les médicaments pour le cholestérol. Et bien entendu aussi, quand on regarde dans la pharmacopée, de plus en plus de médicaments pour la santé mentale. Donc, beaucoup de gens vont prendre des antidépresseurs au long cours, des médicaments contre l'anxiété au long cours. Ça aussi, c'est une autre très grande catégorie de médicaments qui sont pris au quotidien par de plus en plus de personnes partout dans le monde.
J'ai lu le terme « cascade de prescription » que j'ai quand même pas mal apprécié. Quel problème ça peut amener d'avoir peut-être trop de médicaments à un moment donné? Parce que tu l'as dit, pilule pour le cœur, on dirait qu'à partir d'un certain âge, c'est comme si t'en as 8 à prendre par jour, là. À quel point ça peut créer des problèmes, cette surconsommation-là, je vais l'appeler comme ça, de médicaments?
C'est particulièrement important plus on vieillit en âge. Donc, on voit, en fait, chaque fois qu'on prend un médicament, il y a des effets secondaires qui peuvent arriver. Donc, à ta question, plus je prends de médicaments, bien, plus je peux accumuler des effets secondaires. Et il y a aussi des interactions qui peuvent avoir lieu entre des médicaments. Puis moi, dans ma pratique à l'urgence, c'est particulièrement vrai dans la population. Là, 65 ans et plus, je trouve maintenant qu'on devrait plus dire 75 ans et plus, là, quand on parle de plus de personnes âgées. Puis encore une fois, il y a des 75 ans qui sont en parfaite santé, puis il y en a qui sont très malades. Mais mettons qu'on prend justement un médicament pour la dépression, mais on prenait déjà 2 médicaments pour l'hypertension. Puis là, whoops, ça fait baisser notre pression, puis on tombe, on chute, on se passe une hanche. Mais c'est ça, c'est un impact très concret d'une pharmacopée et d'une cascade qui crée un effet délétère, par exemple, chez la personne âgée. C'est vrai aussi chez les personnes qui sont très jeunes. Si on ajoute des médicaments, on a du diabète, de l'hypertension, on a fait un infarctus, on se ramasse avec des fois 8, 10, 12 médicaments à prendre par jour. C'est sûr que tout ça relié ensemble, dès qu'on en ajoute un ou qu'on en enlève un, la personne peut en subir des conséquences et avoir des effets, là.
J'imagine que la réponse peut être assez complexe, mais je me demande comment on détermine si les médicaments finissent par avoir plus d'impact négatif que positif, parce qu'à un moment donné, on donne pas des médicaments pour le fun à quelqu'un. Si on y donne, c'est parce que cette personne-là en a besoin. Fait que si elle a besoin de 5-6 pilules, ben comment on gère ça s'il y a beaucoup d'impact négatif?
C'est une super bonne question, puis effectivement, la réponse est pas simple. C'est une des choses, ça fait 12 ans que je pratique la médecine d'urgence, ça fait 20 ans, mettons, que je suis sans stage. Puis déjà, en 20 ans, là, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant, les études, mettons, sur les médicaments pour le cœur, mais là, on prenait des gens qui prenaient que les médicaments pour le cœur. On faisait les études sur les médicaments pour le cholestérol, on prenait des patients qui prenaient juste les médicaments pour le cholestérol, puis souvent, on excluait les gens de 65 ans et plus. Maintenant, les études scientifiques, ce qu'elles font, c'est justement, elles vont aussi étudier l'interaction de tous ces médicaments-là chez différents types de personnes. Donc, on a des études chez nos personnes âgées, des études chez nos adultes, puis souvent, il va y avoir une combinaison de 3-4 médicaments. Puis on va voir, souvent, les études vont faire un amalgame de c'est quoi notre objectif dans le fond quand on donne des médicaments? Ben, c'est éviter la mort, bien entendu, et éviter les infarctus, les AVC. Quand je vous parle de médicaments, parce que c'est une grosse catégorie, les médicaments pour l'hypertension, diabète, cholestérol, c'est comme ça. Fait que maintenant, on les étudie, ces interactions-là, de plusieurs médicaments, alors qu'avant, on le faisait beaucoup moins. Mais ça, c'est quand je te parle d'études scientifiques avec plusieurs milliers de personnes. Après ça, au quotidien, quand je rentre dans le bureau de mon médecin de famille ou de mon spécialiste du diabète, ben lui, sa job, c'est entre autres justement de s'assurer qu'il n'y en a pas d'effet indésirable chez la personne. Puis là, quand il y en a, mettons, je rentre, ils viennent de commencer un nouveau médicament, puis c'est mon cinquième. Puis là, je dis, hey, j'ai mal au cœur à tous les jours, je me sens pas bien. Malheureusement, on n'a pas de test pour pouvoir savoir ça va être quoi le meilleur puis quoi le moins bon médicament pour chaque individu. Ça fonctionne beaucoup par essai erreur. Fait que là, on fait, ah, ben, probablement, vous avez un effet secondaire sur tel médicament qui, avec tel autre médicament, mais on va les changer, puis on va changer de catégorie. Mais c'est à tâtons, là. Fait que c'est, on essaie, ça marche-tu, ça marche pas, on change. Puis c'est difficile pour nous, comme médecins, ou les pharmaciens, évidemment, ont de plus en plus un grand rôle là-dedans, de pouvoir dire, OK, c'est telle affaire qui fonctionne pas, on va le changer. C'est super difficile à faire au quotidien, parce qu'on n'a pas, de prise de sang, on n'a pas de test pour le savoir nécessairement.
Est-ce que le corps s'habitue à la médication? Est-ce qu'à un moment donné, ce que tu prends comme c'est posologie, j'imagine, le mot?
Oui.
Est-ce que tu as besoin de faire un changement, d'avoir des doses plus fortes avec le temps?
En fait, la réponse est oui. Il y a beaucoup de médicaments qui, avec le temps, on va développer une tolérance. Et les médicaments pour la douleur, entre autres, c'est un très bon exemple. Quand les gens ont des douleurs chroniques, prennent des médicaments extrêmement forts pour la douleur, on parle de morphine longue action, puis tout ça, c'est très bien étudié. Tout ce qui est dérivé de morphine, le corps finit par s'habituer, puis on doit prendre de plus en plus grosses doses. Et c'est même vrai en toxicomanie, malheureusement. Là, c'est les gens qui prennent de l'héroïne, qui est l'équivalent de la morphine. Bien, plus ça va, plus ils doivent augmenter la dose, parce que le corps le ressent de moins en moins les effets. Donc, c'est vrai pour un médicament pour la douleur. C'est vrai dans certaines autres catégories de médicaments. C'est pas vrai pour toutes les catégories, mais c'est vrai pour plusieurs catégories de médicaments où le corps va s'habituer. La bonne nouvelle aussi, c'est que si vous commencez un médicament, ben au début, vous pouvez avoir des petits effets secondaires, mais votre corps va s'acclimater aussi. Puis souvent, les effets secondaires vont disparaître. Là, ben la pilule que vous avez besoin, ben là, elle va faire son effet thérapeutique. Elle aura plus les effets indésirables. Mais ça arrive, l'hypertension, souvent en vieillissant, les vaisseaux deviennent de plus en plus rigides, si on n'a pas changé notre alimentation, tout ça, ben là, à ce moment-là, ben souvent, il faut rajouter une deuxième pilule pour l'hypertension parce que la première ne suffira plus, par exemple. Fait que tu as raison, il y a beaucoup de catégories de médicaments où, avec le temps, on va être obligé soit d'ajouter une deuxième molécule ou soit de la changer parce que le corps s'est habitué.
Mais Élise, tu touches un point qui m'intéresse vraiment. Tu sais, tu as parlé d'alimentation, entre autres. Il y a des gens qui viennent décourager à un moment donné. Je pense à ma grand-mère, Anna, des pilules, puis elle ne tripe pas les prendre tous les matins. Là, quand tu prends de la médication sérieuse, est-ce que tu es pogné avec à vie ou il y a des choses que tu peux peut-être faire pour réduire ton nombre de pilules?
Mais l'hypertension, c'est un très bon exemple où on le voit diminuer le sel, faire de l'activité physique, juste avec les trucs de base, même si c'est des efforts, on s'entend, on peut ne pas prendre de médicaments pour l'hypertension. On a vu beaucoup dans les médias là, tout ce qui est traitement de l'obésité par des médicaments, mais les gens qui ont une obésité importante, qui suivent un régime d'exercice, d'alimentation, qui perdent du poids, souvent vont arrêter d'être diabétiques, vont arrêter d'être hypertendus et ils vont devenir en santé, ils vont pouvoir arrêter de prendre leurs médicaments. Fait que ça, chez l'adulte, là, c'est très bien étudié que si on change notre mode de vie et on devient de plus en plus sain, ben on est capable d'éliminer beaucoup de médicaments dans notre vie quotidienne. Pour ce qui est de la personne âgée, ça, c'est super intéressant. Si vous le savez, à chaque fois que je viens vous voir, je vous dis à quel point ça m'intéresse cette partie-là de la médecine. La personne âgée, c'est vraiment intéressant parce que, comme je disais, là, ça fait peut-être 10-15 ans qu'on s'intéresse à la personne âgée dans les études scientifiques. On n'en avait pas d'études. T'sais, les médicaments pour l'hypertension, on les prend parce qu'on veut pas faire d'AVC. Mais rendu à 88 ans, là, est-ce que c'est encore pertinent de prendre un médicament pour l'hypertension pour éviter de faire un AVC à 98 ans, sachant que c'est pour 10 ans que ça fonctionne? C'est des exemples comme ça où chez la personne âgée, donc sa grand-mère, mais je sais qu'elle est très jeune encore, ben on essaie de plus en plus de comprendre est-ce que c'est un avantage ou un désavantage. Parce que ce qu'on disait, les effets secondaires, là, plus on vieillit, plus on va avoir des effets secondaires puis des effets délétères. Fait que ça aussi, c'est le travail du médecin et du pharmacien, des fois, de se re-questionner et de dire, mais Madame Tartampion, qui a 88 ans, est-ce qu'on lui arrête son calcium et sa vitamine D? Parce que, entre autres, ça donne de la constipation beaucoup. Fait que là, si on arrête ça, peut-être qu'elle va arrêter de prendre des médicaments pour aller à la selle. Si elle fait ça, peut-être qu'elle va se sentir mieux. Fait que c'est tout cet impact-là, c'est la personne âgée qu'on doit mesurer, puis c'est de plus en plus bien, mais on est encore un peu dans le néant pour tout ce qui est prévention chez la personne très âgée. Fait que oui, probablement que moi j'ai l'impression que dans 10-15 ans, pour les personnes de 80-85 ans et plus, il y a aussi tout le volet du consentement puis de la discussion. C'est si la personne est apte à décider puis qu'elle comprend sa santé, ben on peut discuter avec elle. C'est, ben, si vous savez, calcium, vitamine D, on prend ça pour éviter d'avoir une fracture. C'est environ 10 à 15 ans, les impacts. Là, vous avez 88 ans. Voulez-vous encore continuer à prendre ça, sachant que ça vous prévient une fracture quand vous allez avoir 105 ans? Ça se pourrait que la personne, elle dise, non, merci, j'en veux plus, puis qu'on les arrête aussi. Il y a ce bout-là qui est une discussion à avoir avec les patientes, avec les clients, puis leur dire, ben peut-être que on peut les arrêter, ces pilules-là. Fait que c'est aussi une question de consentement, je pense.
On parle avec Dr. Élise Berger-Pelletier. En passant, si vous venez de vous joindre, là, on parle de, mon Dieu, pas mal d'affaires. On vient de faire le tour de tout ce qui était médicaments. J'ai le sentiment que il y a beaucoup de choses qui ont un impact sur notre santé, mine de rien. Puis j'ai vu un article de Radio-Canada qui parlait du microbiote, de la fréquence des selles, tiens, qui a aussi un impact sur notre santé. J'ai le sentiment que c'est un peu tabou comme sujet, que c'est pas des affaires que les gens aiment nécessairement parler ouvertement.
Pour toi, on sait que c'est pas un problème,
mais,
Audrey.
Ben non, mais je me dis, regarde, ça passera sous mon dos, mais de façon médicale, il y a quand même des choses intéressantes. Quand on parle de selles, le mot microbiote revient souvent. De façon vulgaire, mettons, là, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça veut dire?
Le microbiote, c'est l'univers parallèle dans votre intestin. Hein? C'est les milliards de bactéries qui vivent dans tout votre tractus digestif. Là. Donc, l'estomac n'a pas de bactéries, c'est stérile, donc c'est très acide, fait qu'il n'y a pas de bactéries qui vivent là. Mais après l'estomac, là, tout le reste, là, le petit intestin jusqu'à l'anus, là, ben il y a des bactéries. Puis ça, on développe ça à la naissance, particulièrement quand on commence là, mettons, on est allaité, donc on est un petit bébé, puis on boit le lait de notre mère ou le lait maternisé. Puis c'est vraiment un univers, parce que c'est des milliards et des milliards de bactéries, là. Puis chaque humain a son propre microbiote, un peu comme on a notre propre empreinte digitale. Puis c'est super intéressant, puis il faut pas être gêné d'en parler, en fait, parce que c'est... Quand je te disais, je te parlais de personnes âgées et qu'on va avoir beaucoup d'études, s'il y a une chose qui va changer beaucoup dans les 20, 30, 40 prochaines années, c'est l'impact du microbiote sur notre santé. On commence à peine à comprendre comment ça fonctionne. Cet article-là était intéressant, en fait. Puis je suis allée voir l'article scientifique qui est cité là, dans Radio-Canada et le Journal de Montréal. L'article scientifique, en fait, c'est qu'ils ont pris des volontaires sains. Puis ils leur ont fait des questionnaires sur leurs habitudes de vie, puis leurs habitudes de combien de fois vous allez à la selle, tout ça. Puis ce qu'ils ont découvert, en fait, puis après ça, les gens acceptaient, ils se faisaient faire des prises de sang, prendre leurs signes vitaux, tout ça. Ce qu'ils ont découvert dans l'étude, c'est que les gens qui étaient très constipés, donc qui allaient à la selle moins d'une fois par jour, là on parlait de une à deux fois par semaine, bien c'est ce qu'ils se rendaient compte, c'est que le microbiote, donc les bactéries, qui, quand on va à la selle plus souvent, utilise ce qu'on mange, dans le fond, pour dégrader, si vous voulez, ce qu'on mange en des choses qui sont bonnes pour notre santé. Mais si on est constipé, ces mêmes bactéries-là vont dégrader des choses qui vont devenir toxiques dans notre sang. Puis c'est un peu ça l'étude. Ce qui se rendait compte, c'est qu'il y avait un lien entre la fréquence des selles, les toxines qui mesuraient dans le sang, puis les maladies que les gens pouvaient développer, comme entre autres les maladies rénales. C'est sûr que c'est, d'un point de vue scientifique, c'est une étude qui a quand même des petits défauts. Là. Fait que, t'sais, faut pas prendre les conclusions de cette étude-là en partant en peur, en disant « c'est sûr que c'est ça ». Mais quand même, je trouvais ça intéressant, c'est une des premières fois qu'ils utilisaient là-dessus. Puis, ça confirme juste une autre chose, que la santé intestinale, c'est majeur chez l'humain. On pense, entre autres, que les microbiotes ont un impact sur les allergies, ont un impact sur peut-être des fois les maladies immunitaires. Il y a beaucoup de liens à faire actuellement sur le microbiote et la santé chez les humains, mais on commence à peine à le comprendre.
Puis à quel point tu peux contrôler ça à ce moment-là? Je veux pas dire contrôler nos selles, là, mais j'imagine que tu peux faire quelque chose pour chouchouter un peu ton microbiote, là?
Ben, en fait, oui. C'est-à-dire que malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses sur Internet, justement, qui vont vous vendre des produits miracles, des lavements magiques, des whatever. Ça, là, évidemment, c'est pas étudié, c'est pas prouvé, puis ça peut même être dangereux pour la santé. Par contre, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Si on ne veut pas être constipé, il y a trois choses principalement qui donnent de la constipation, qui changent la fréquence des selles. C'est la sédentarité, c'est l'alimentation, c'est le stress. On sait, les gens stressés vont aller moins souvent à la selle. Les gens sédentaires vont pas à la selle, ou moins, évidemment. Puis les gens qui ont une alimentation plus fast-food, puis tout ça, ben encore une fois, ça va avoir un impact sur les selles. Fait que, tu sais, c'est trois choses simples qu'on peut chouchouter notre microbiote. Donc, en faisant de l'exercice, en ayant une alimentation diversifiée puis relativement saine, puis en essayant de diminuer le stress. C'est facile à dire, tout ça, là, mais concrètement, si tu veux chouchouter ton microbiote, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les enfants, c'est les poupons, parce que, comme je vous disais, le nerf de la guerre est dans les premières années de vie. Pour chouchouter son microbiote, il y a un lien, entre autres, avec l'utilisation d'antibiotiques. Les enfants qui prennent beaucoup d'antibiotiques en bas âge, ben, je veux pas qu'on prenne des antibiotiques. Ça tue les méchantes bactéries, mais ça tue les bonnes bactéries aussi. Donc, on pense qu'il y a des impacts quand, mettons, des enfants qui font des otites à répétition, qui prennent plein d'antibiotiques dans leurs premières années de vie, ça aurait probablement un impact sur leur microbiote. Est-ce qu'ils vont faire une vie normale? Pour l'instant, on croit oui, mais est-ce que ça peut avoir des impacts sur des maladies futures et tout ça? Probablement. Fait que ça aussi, c'est un autre aspect pour les parents qui nous écoutent.
Les fameux yogourts probiotiques, ça peut-tu avoir un impact quelconque? On dirait que des fois, j'en prends puis j'en mange parce qu'on dirait que ça c'est bon pour la santé, mais je sais pas trop qu'est-ce que ça fait finalement.
En fait, les probiotiques, c'est justement habituellement des yogourts où on a certaines bactéries justement qui ont été ajoutées en très grande quantité. Puis là, ça, c'est très intéressant parce que sur le marché, t'as une panoplie de sortes de probiotiques. Il y en a qui c'est plus effet placebo, je te dirais, marketing, là, c'est-à-dire c'est marqué probiotique, mais il n'y a presque pas de bactéries dans le yogourt versus, entre autres, il y a des marques qui sont vendues uniquement en pharmacie où là, il y a des doses très importantes de bactéries qui sont à l'intérieur du pot de yogourt. Les études qui nous disent dans les probiotiques, c'est pratiquement utile et utilisé. En fait, moi, je l'utilise dans ma pratique quand, justement, les gens ont été très malades, ont eu à prendre des antibiotiques, puis on sait que la flore intestinale a eu un impact parce que, justement, l'antibiotique a tué des bonnes bactéries dans notre intestin. Puis là, les gens vont dire « Ah, j'ai de la diarrhée une semaine après avoir eu mon antibiotique, qu'est-ce que je peux faire? » Souvent, le probiotique va diminuer les symptômes. C'est vrai aussi chez les enfants, on les utilise. Évidemment, je vous conseille toujours de demander à votre pharmacien avant de faire ça, là, particulièrement chez les enfants. Mais c'est moi, je le prescris ou je le conseille quand les gens prennent des antibiotiques puis ont eu des problèmes de diarrhée par la suite. Là, ça fonctionne quand même bien pour soulager ces symptômes-là. Mais c'est le principal utilité. Est-ce que tu peux prendre ça à tous les jours en disant je vais améliorer mon microbiote avec ça? Ça, c'est pas étudié. Puis c'est quand même dispendieux, ces produits-là. Fait que, entre payer très cher pour un yogourt, puis je ne sais pas si ça a un impact en le prenant au quotidien, je pense que j'éviterais puis je garderais mon argent pour d'autres choses. Mais de temps en temps, ça vaut la peine.
Je vais transmettre le message à mon chum, parce que lui, dans sa tête, le probiotique règle tout ce qui touche la flore intestinale. Élise Berger-Pelletier, merci d'avoir pris le temps ce matin.
Hey, ça fait plaisir, c'est une belle journée.
À bientôt, bye. Salut. Prenons soin de nos intestins, c'est ça que je retiens.
Mais pas nécessairement avec beaucoup de yogourt probiotique.
Non, exact, mais c'est vrai que ça coûte cher en petit pépère.
Mais on dirait que quand j'en mange, je me sens bien. On dirait que j'ai l'impression de faire bien à mon corps.
Ben, t'as l'impression de faire attention, mais je veux dire, je mange une pomme verte, deux, trois raisins dans une journée, puis je mange pas de fast-food le lundi, puis j'ai l'impression que je fais du bien à mon corps.
Oui.
T'sais, dans le sens qu'il y a beaucoup d'effets placebo, je sens là-dedans aussi. Mais je trouvais ça intéressant parce que cet article-là sur le microbiote, on dit carrément que c'est le deuxième cerveau, qu'on réalise pas à quel point c'est supra-important. Puis c'est vrai qu'en tout cas, je vais parler pour moi, mais c'est vrai qu'on y fait pas tant attention non plus.
Je me rends compte beaucoup quand je suis stressé aussi. Tu sais, à parler du stress, là. là, que c'est un élément qui...
Oui, mais l'impact.
Ça va vite, on a des grosses horaires. Là, fait que je me rends compte qu'il va falloir que je trouve une manière de me relaxer plus.
D'aller aux toilettes davantage.
Oui, 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 ben, c'est bon pour la santé. Il faut que je trouve une manière de mieux balancer mes
mais
affaires.
Tu dis ça, mais je pense qu'il y a bien du monde, ou peut-être aussi qu'on vit dans toi et moi dans une bulle, là, mais moi, quand j'ai appris qu'il y a du monde qui allait plus qu'une fois par jour aux toilettes, je me suis dit j'ai clairement un problème, parce que ce n'est pas mon cas. Il y a des gens qui sont timés.
Ils sont timés, puis c'est régulier.
Oui, tous les matins à 7h30, après le café, c'est là que ça se passe, puis après le dîner, puis c'est intéressant.
Faut faire attention au stress. On parlait des médicaments, qu'il y en a pour le stress aussi. T'sais, on parlait de plein de choses par rapport, mais on dirait que c'est un facteur qui est très central dans plein de problèmes.
Oui, puis c'est une roue qui tourne
aussi. Une roue infernale.
Parce qu'on essaie de trouver une solution magique. Des fois, ça passe par les médicaments, mais c'est pas mieux d'en prendre. Là, ça va régler tes problèmes de microbiote, mais j'ai comme l'impression que
c'est à l'infini.
C'est infernal, puis c'est dur de le remarquer. Le stress, souvent, on le remarque trop tard. Il y en a que c'est par les tensions musculaires aussi que ça va se faire sentir. Fait que, ouais. Non, très, très intéressant. Docteur Élise Berger-Pelletier, urgentologue. Vous voulez réécouter ses chroniques en passant, là, c'est sur lebelvd.fm. Je tiens à dire rapidement, on n'en parle pas souvent, mais on a des podcasts à Boulevard qu'on fait de toutes sortes, sur toutes sortes de sujets. Max, t'en as eu un, la dérape, si je me trompe pas.
Oui, on parlait de sport, puis en passant, ces podcasts-là, si vous voulez aller les retrouver sur YouTube, tant mieux, sont là, mais ils jouent aussi en semaine. C'est à 11h, à midi, pardon, qu'on vous présente un podcast à Boulevard, et il y a un Marceau le soir. On fait ça entre le show du matin et le show du retour pendant la période estivale. Donc, pour cette semaine, vous reste des occasions.
T'as fait le roadcast, Sam?
Oui.
J'ai fait Sextape. Vous voyez qu'il y a comme plein de sujets qu'on touche. Et Élise Berger-Pelletier avec Véronique Bergeron, que vous retrouvez l'après-midi normalement dans Gravel en retour, on fait Il était une fois la santé. Un de mes podcasts préférés qu'on a produit à Boulevard 102.1. Vraiment intéressant. Qui parle de toutes sortes d'affaires de façon peut-être un peu plus légère. Fait que si jamais BLVD.fm, Spotify, la chaîne YouTube évidemment et toutes nos plateformes. Bon, là, Max m'a fait comprendre qu'il faut vraiment aller en
musique. Je te fais-tu des gros yeux?
The Offspring! Why don't you get a job at Boulevard 102? My friend's got a